Radio Barque, donc, pour la troisième partie, comme je le disais au tout début, c'est Nan Pingao qui est notre invitée aujourd'hui. Alors, madame, vous êtes d'origine chinoise, bien qu'aujourd'hui de nationalité française. Je ne sais pas si vous avez la double nationalité, ça se fait avec la Chine ?
Non, la Chine n'accepte pas double nationalité et du coup... Française,
bon, donc vous voilà. Êtes aujourd'hui française. Mais évidemment, comme c'est votre pays d'origine, ça vous permet, connaissant la langue et le pays, de faciliter des relations entre les uns et les autres. Et c'est comme ça, je pense, que vous êtes devenue directrice générale du Château La Bastide, un domaine viticole, qui est la propriété d'un groupe chinois, et qui est aujourd'hui le seul groupe chinois viticole détenu non seulement en Languedoc-Roussillon, mais en Occitanie.
Non, en Occitanie, nous sommes le seul château. Suite à une acquisition depuis janvier 2015, et le même groupe possède deux autres châteaux en Allemagne, mais en France, c'est leur unique investissement.
D'accord. Alors, les Chinois s'étaient intéressés depuis un certain temps au Bordelais, à la Bourgogne, peut-être aux crus plus connus, mais le Languedoc, ça n'était pas le cas. Est-ce que vous-même, vous avez joué un rôle particulier pour attirer les gens vers le Languedoc, sachant que vous y êtes depuis très longtemps.
31 ans. Moi, de décembre, je fêterai mon arrivée en France depuis 31 ans.
Voilà, on reviendra un petit peu là-dessus tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, et que je me sens 100% languedocienne, et, parce que j'aime cette région, j'aime tout ce qu'il y a de cette région. Et puis... Depuis plus de 10 ans, je travaille dans l'export du vin, mais spécialisé des vins du Languedoc. Pour moi, ce territoire est à défendre, ce territoire est à promouvoir, ce territoire est devenu mon pays d'adoption. Je l'aime et je m'efforce vraiment tous les jours à faire ce que j'ai à faire à cœur. Et puis, par la suite, donc, juste pour votre info, les vins du Languedoc sont très appréciés par les Chinois.
Qu'ils ont découvert assez récemment
ou qu'ils... Ils ont découvert, oui, certes, assez récemment, mais qui a pris d'une ampleur importante. Aujourd'hui, certains grands châteaux, comme vous avez cité, de Bordeaux, ce n'est pas à la bourse de tout le monde. Et que le vin, à mon sens, oui, ça c'est réservé à une classe d'élite, aristocratie, de tout ce que vous voulez, mais pour moi, le vin est un produit de la vraie démocratie. Tout un chacun doit avoir la possibilité de trinquer un verre, partager un verre, partager un petit moment.
Voilà qui est une philosophie fondamentale sur laquelle on reviendra et qui explique peut-être beaucoup de choses. Une question, la Chine, est-ce que le vin est une boisson traditionnelle chez une classe ou sociale ou pas ?
Alors, à savoir, jusqu'au 7e, 8e siècle, la Chine produisait du vin parce que nous avons beaucoup de récits, des poésies qui parlaient des verres de vin, de reflets du vin dans un verre, etc., en jade. Et malheureusement, c'était sur la route de la soie. Malheureusement, la Chine a subi, sa chute dans son empire, dans ses dynasties. Et puis, à cause de toutes ces guerres sans cesse qui ont duré et qui ont trop duré, et ben, qui avaient exterminé, entre guillemets, donc, cette culture viticole. Par chance, la Chine a gardé toutes ses racines et tout était revenu en grande force depuis plus de 30 ans. Et je souligne ici, dans Languedoc, notamment des universitaires et aussi des professionnels sont allés en Chine, qui continuent à y aller pour aider
à réintroduire la culture.
Absolument, oui.
Et alors aujourd'hui, est-ce que le Chinois moyen boit du vin et quand ?
Alors, la Chine est un immense continent qui fait à peu près 17 fois de la France. Donc, on imagine, bien entendu, les Chinois, une partie des Chinois qui commencent à s'enrichir, qui aiment ce mode de vie avec un verre de vin à la main, et toutes ces grandes marques chinoises aussi qui travaillent en Chine font énormément de promotions pour ce produit. Après,
donc c'est un phénomène assez nouveau.
C'est nouveau. Et ensuite, il y a tous les vins du monde entier. Il n'y a pas que les vins de la France.
Oui, oui.
Voilà. Et puis, pour les Chinois, le terme de santé, ça parle. Lorsqu'on dit boire un verre de vin rouge ou deux verres, c'est un antioxydant, les Chinois font leur choix. Au lieu d'aller prendre des cachets, chercher des médicaments à la pharmacie, ils préfèrent donc boire du vin.
C'est... Alors, curieusement, ce message-là semble être passé mieux en Chine qu'il ne passe en France.
Je vous donne un exemple de ma maman qui était venue ici, qui n'avait pas cette culture du vin. Au début, elle m'a dit « Ah, le tanin me gêne, j'aime pas trop, etc. » Je lui ai dit « Maman, tu fais le choix, tu fais le bon choix. Soit plus tard, tu vas chercher un médicament et tu vas aller voir le docteur à l'hôpital, ou alors... Dès maintenant, à 50 ans, tu prends un petit verre tous les jours. Ton problème cardiaque, ce sera, je pense, mieux préservé avec un petit verre de vin. On n'en abuse pas. Hein,
oui.
Soit, avec modération.
Avec modération, comme on dit.
Et les Chinois entendent ce message.
Ah, parce que curieusement, en France, et on le voit, les viticulteurs d'ici rouspètent continuellement contre des campagnes qui continuent à faire équivaloir le vin à l'alcoolisme, donc à une maladie. Donc en Chine, apparemment, le message est beaucoup mieux reçu.
Absolument, parce que la Chine, c'est un pays de l'alcool fort. Qui tourne entre 50 et 54 degrés d'alcool.
Alcool de riz, notamment.
Et qui s'est fait à base de céréales. Mmh. Et la Chine, 1 milliard 300, 400 millions de Chinois qui mangent 3 repas par jour, c'est beaucoup de céréales dont on a besoin. La Chine est devenue un pays qui importe des céréales, dont le blé français, je m'en félicite, mais en même temps, produire de l'alcool fort, il y a quand même là un impact sur la santé.
Oui, voilà. Donc, ça peut expliquer que le vin occupe un créneau qui était nécessaire.
Nécessaire, la mode de vie occidentale, ce rapprochement aussi grâce à Internet, grâce au tourisme. On a compris que le vin, quotidiennement, les Français peuvent s'offrir un petit verre. C'est pas la fortune, c'est pas une bouteille chacun, loin de là. Après, pour moi, il y a le côté aussi, la Chine est un pays qui est très ouvert, qui accepte toutes les cultures venues d'ailleurs. Donc, à table, vous trouverez aussi bien des jus de fruits, de l'eau minérale, du thé, de la bière, de l'alcool fort pour ceux qui en veulent. Et puis maintenant, le vin prend une place importante.
Voilà, donc au quotidien, ça c'est un phénomène intéressant et venant de votre part. Donc, et en citant l'exemple de votre mère, c'est particulièrement, je dirais, insolite et intéressant. Alors, revenons un petit peu sur... cette singularité qui fait que pour le moment, il n'y a pas d'autres domaines en Occitanie, enfin, Languedoc-Roussillon. Bon, sur Toulouse, il n'y a pas beaucoup de domaines viticoles, mais que seulement les Bordelais jusque-là sont présents, ou les Bourguignons peut-être aussi?
Oui, mais les Bordelais, tout le monde, Champagne, tout le monde y va.
Oui, Champagne aussi, oui.
Voilà. Toutes les régions viticoles françaises sont présentes en Chine. Mmh. Mais Languedoc était parti étant de loin, mais je félicite quand même le travail qui a été initié par l'ancien président de Languedoc-Roussillon, Monsieur Georges Fraîche, qui avait cette vision de dire le marché chinois, c'est notre cible. Donc, cette marque Ombrelle Sud de France, auquel je participe régulièrement avant, et maintenant pour la Bastide, rien que pour la Bastide, et qui organise les salons, qui font des promotions, etc., c'est un travail de fourmi, mais la mayonnaise est en prise. Et on parle de plus en plus du Languedoc, quand on parle du vin, l'Occitanie, je crois que le terme n'est pas encore rentré dans les mœurs.
Il faut dire qu'il est récent. Et la marque Sud de France, pour vous, a bien contribué à faire rentrer le vin languedocien
certainement,
en Chine.
Certainement. Ouais. Voilà, reste à nous, chaque domaine viticole, ou les négoces, peu importe, ou les caves coopératives, de dire il faut envoyer du bon vin aux Chinois, parce qu'ils apprennent vite. Et si on se laisse faire sans avec le sérieux, le marché sera pris par les autres. Donc, garder l'excellence donc du vin français, garder cette excellence de diversité, certes compliquée, mais la pédagogie peut jouer le bon tour pour nous.
Et alors, comment expliquer que votre domaine est encore le seul chez nous? Est-ce que c'est parce que l'économie chinoise ralentit un peu et qu'on investit moins à l'extérieur, à l'étranger?
Oui, là, vous touchez un point, c'est-à-dire ces dernières années, les Chinois, comme on entend, hein, qui ont investi parce que l'État a encouragé les entreprises d'avoir ces échanges. Je suis pas dans aux sphères de discussion. Je constate simplement depuis quelques temps, l'État chinois dit que quand on fait les comptes, beaucoup d'entreprises chinoises ont investi dans le monde entier, mais certaines, malheureusement, sont mal gérées. Pour cette raison-là, Château Lapastide, on voudrait être exemplaire et on ne veut surtout pas soit pointé par les Chinois en disant « c'est un mauvais investissement », soit par les Français qui aiment ce château de dire « ah, c'est mal géré ». On voudrait être un domaine exemplaire.
Voilà, vous voulez servir d'exemple et non pas de contre-exemple.
Bon, exemple, mais pour soi, parce que quand on aime ce travail passionnément, on travaille en équipe, hein, je ne suis pas du tout seule, et cette équipe est soudée, motivée, et on regarde l'avenir dans la même direction, ça c'est important, parce qu'on est en train de construire, on est en train de bâtir. Donc, la Pastide n'était pas connue en France il y a un an et demi lorsque je suis venue. Aujourd'hui, si je fais un petit bilan, et si vous vous baladez dans l'Aude et vous attablez dans des restaurants petits ou grands, y compris des étoilés, y compris des 3 étoiles, vous trouverez les vins de la Bastide.
Ah, c'est bien, mais on va revenir sur votre action, parce que je sais que vous avez mené une action particulièrement, justement, importante d'installation qui peut-être était nouvelle. Donc, finalement, si je comprends bien aujourd'hui, quand même, le fait que les Chinois investissent moins, c'est un peu un mot d'ordre aussi étatique ou
absolument
gouvernemental.
Absolument.
C'est-à-dire, on se replie peut-être un peu sur soi. On resserre les boulons pour si vous permettez.
Et puis parce que il y a aussi dans certains pays comme Canada, Australie, tout ça, ils restreignent les Chinois quand c'est purement investissement pour spéculer. Je pense que personne ne l'aime.
Oui, bien entendu.
Ni en France ni nulle part. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes détestent ça. Parfois, on est victime. Donc, mettre l'argent uniquement pas pour spéculer et 3 ans après on revend pour gagner le plus-value, je crois que le gouvernement chinois a envoyé un message très clair.
Oui, donc les Chinois ne sont pas tentés d'investir comme souvent les Américains, les Anglo-Saxons, par exemple dans des fonds de pension, de retraite, des choses
si,
comme ça.
Si, quand même, les Chinois, c'est quand même dans beaucoup de domaines.
C'est de la finance pure.
C'est de la finance pure, mais là, il y a une stratégie étatique. Détenir les titres américains, c'est le président qui décide avec ses conseillers. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je constate au niveau d'investissement des entreprises en France ou en Europe, la Chine représente très, très peu, je crois autour de 2%. Mais si c'est à moi de le faire, j'encouragerai les Chinois de venir parce que la France a besoin des investissements. Et surtout, je voudrais souligner, la France a besoin de ce partenaire puissant. Essayer de travailler à côté des Chinois, on a tout à gagner.
Voilà, mais des investissements alors productifs comme celui-ci et non pas spéculatifs
exact
comme les fonds de pension ou ce genre de choses, ce qu'on appelle habituellement la finance. Oui. Alors Nanpinga, revenons sur ce domaine que vous avez pris il y a quelques années et on s'aperçoit, vous y avez fait allusion à l'instant, vous avez une action de développement sur le terrain, ce qui est assez surprenant parce que on connaît le proverbe français « Nul n'est prophète en son pays » et il semble qu'il y a besoin d'une chinoise pour bien faire connaître ce grand domaine, qui est quand même un grand domaine, celui de la Bastide à Escale, à côté de Lézignan.
Voilà, un mot pour décrire la Bastide. La Bastide, c'était un des plus grands domaines de l'Aude. L'Aude possède beaucoup oui. de grands domaines.
Et celui-ci, surface ? Et
Surface actuelle, au total, 180 hectares.
Et combien de vignes ?
Et 60 hectares de vignes.
60 hectares de vignes.
Voilà, et 75% de production, c'est AOP Corbière, uniquement Corbière.
Alors, et le reste ?
Le reste, nous avons 40 hectares de champs agricoles, donc avec une culture alternée, des pois chiches, du blé, etc.
Ah oui, on fait autre chose. Oui.
Le reste, c'est des bois qui encerclent nos vignes, hein, notre vignoble. Voilà.
Ouais, c'est quand même un grand domaine. Enfin, 180
absolument,
hectares, ça
absolument.
Fait pas loin de 2 km carrés quand même.
Après, la notoriété de ce domaine était à l'étranger parce que avant notre arrivée, la Bastide exportait déjà dans plus de 20 pays.
Oui, donc c'était déjà acquis avant que vous n'arriviez.
Voilà, c'est-à-dire, oui, c'était une entreprise très autonome avec une équipe très solide. D'ailleurs, je souligne le nom de notre œnologue Claude Gouraud, qui est du laboratoire des gens à Narbonne. Et qui suit l'entreprise depuis 17-18 ans.
Ouais, laboratoire des gens, laboratoire d'œnologie bien connu sur
absolument,
la Narbonnaise.
Absolument. Donc, la Bastide exportait les vins, mais pratiquement pas de vente en France. Pas de caveau de vente, c'est-à-dire pas de contact.
Oui, ça, c'était un choix qui avait été fait par les anciens dirigeants.
Exactement, par les anciens propriétaires. Et dès mon arrivée, il me semblait que c'était urgent de dire « j'aime la Bastide, je suis fière de la Bastide, mais cette fierté est à partager ». Dans ce sens, la Bastide, c'est un cinquième du territoire d'Escale, c'est le maire, M. Henri Chinato, qui me l'a dit. Ensuite, le maire de Lézignan, M. Michel Maïc, m'a dit « mais beaucoup de Lézignanais connaissent pas la Bastide, encore moins les vins ». Alors, moi, mon envie folle, c'est de dire, venez à la Bastide, on ouvre un caveau, on ouvre la porte, venez nous rencontrer, ensuite, appréciez nos vins. Depuis 2015, nous sommes presque fin 2017, je pense que cette réputation, on a construit jour après jour, et nous sommes aussi bien dans les restaurants Michelin, pas moins de 10 hein, à ce jour, et aussi bien dans des petits restaurants au bord du canal, etc., etc. Et je suis tellement fière de dire « venez voir ». Et je vous dis, il y a 2 semaines, j'ai reçu un papy de 93 ans, Monsieur Bénézicte, avec son épouse et son fils qui était né à la Bastide en 1958. Mmh. C'est un des anciens régisseurs de la Bastide. Il a quitté le domaine en 68, il n'a jamais remis ses pieds au domaine. Lorsqu'il a lu dans la presse, c'était en indépendant, que nous sommes à la recherche des traces de l'histoire de la Bastide, il a demandé à son fils de le conduire jusqu'au domaine.
Voilà, et il est venu témoigner sur ce passé.
J'en ai des histoires comme ça, j'en ai plein. On m'a envoyé des courriers, on m'a envoyé des photos, on est venu m'apporter des photos, des témoignages. On m'a invité à aller chez des personnes, et ça, oui, peut-être, à vos yeux, je suis une Chinoise qui est en train de remuer ciel et terre pour retrouver ses traces, mais pardonnez-moi, je ne me vois pas. Je ne vois pas ma tête chinoise.
Oui, c'est ce que vous avez.
J'ai l'âme languedocienne.
Voilà, c'est ce que vous avez, ce sur quoi vous avez insisté tout à l'heure. Alors, Nanpingao, pour conclure, je dirais justement, donc vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé.
Avec toute l'équipe.
Avec toute l'équipe, bien sûr, vous avez refait un démarchage en quelque sorte sur l'Aude. Et puis, vous avez aussi introduit des spectacles, je crois, sur le domaine. Alors, c'est-à-dire des actions extérieures et prestigieuses.
Alors, avec l'équipe, nous sommes partout, là où il y a des animations. Là, on n'a pas loupé une. Hein. Là, il y a des dégustations par, organisées par Syndica, par nos clients, cavistes, etc. Narbonne, Palais du Vin, rien que pour signaler ce nom. Mais lorsque nous sommes arrivés, j'ai apporté un peu de nourriture chinoise. Les clients étaient surpris, le patron aussi. Mais tout le monde était content. Mmh. C'est ça la finalité dont je recherche. Donc, que vous dire ? Les vins de la Bastide méritent cette notoriété. Les vins de la Bastide méritent de toutes ces récompenses. Les vins de la Bastide méritent d'être connus parce que c'est un travail collectif derrière, sachant que nous sommes plus que sérieux pour garantir cette qualité. Et surtout, ce spectacle, en fait, qu'on a appelé la Bastide enchantée. Dans ce sens, la Bastide réveillée, puis elle est enchantée. L'année prochaine, il faut que je trouve un autre nom.
Voilà.
Mais ça, c'est grâce à la ville, grâce à M. Maïc, le maire de Lézignan.
Grâce à Lézignan, donc. Mais vous vous êtes associé.
Nous sommes intégrés dans le festival qui s'appelle Patrimoine et Culture. La Bastide a ouvert grand ses portes. On a reçu plus de 500 personnes. Et il y avait 45 Chinois qui ont fait le déplacement avec les artistes.
Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure sur cette image. La Bastide a ouvert grand ses portes, puisque je crois que c'est véritablement votre politique fondamentale aujourd'hui.
Et je rajoute juste ce soir, donc, nous allons fêter une fête agricole ancestrale chinoise qui s'appelle Fête de la Lune, pour la pleine lune, et la fin des vendanges à la Bastide. À nouveau, ce sera un beau mélange franco-chinois ou sino-français, comme vous voulez.
Ce qui signifie qu'on aura l'occasion, Nan Pingao, de vous retrouver de temps en temps sur ces ondes, tant vous devenez partie intégrante de la vie. Alors, lézignanaise, donc narbonnaise.
Je me sens audoise maintenant.
Voilà, audoise et languedocienne.
Absolument.
Merci pour ce témoignage. Notre prochaine invité sur ce Radio Barque numéro 4, ça sera M. De Vic, le président du PNR, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Évidemment, on restera dans la note locale. Merci encore à vous et à la semaine prochaine.